Salut Philippe.
Salut Patrick.
Donc Philippe, je sais que tu veux me parler du Canadien, mais il y a une mauvaise nouvelle qui vient de tomber à propos de l'ancien numéro 22 des Islanders, Mike Bossy, cancer du poumon.
Oui, tout à fait. C'est sur le site de TVA Sport. Là, ils nous apprennent la nouvelle. Mike Bossy qui explique aux auditeurs de TVA Sport que il doit maintenant lutter contre un cancer du poumon. Évidemment, on se doute que ce sera une épreuve très difficile pour Mike Bossy. Patrick, je pense que tout le monde, hein, on joint nos pensées pour essayer de fournir de l'énergie à Mike Bossy. C'est un gars extraordinaire, Mike Bossy. Il a été tellement important dans l'histoire de la Ligue nationale, marqueur de 50 buts avec les Islanders de New York. Mais plus que ça, il y a eu un impact aussi dans les négociations de contrat des joueurs, parce que lui, son agent, c'était Pierre Lacroix. Et Pierre Lacroix était un négociateur redoutable. Et quand il a négocié les premiers contrats de Mike Bossy avec les Islanders de New York, les Islanders ont été obligés de mettre pas mal plus d'argent sur la table qu'ils pensaient le faire. Et ça a eu un effet d'entraînement là, dans toute la Ligue nationale. Alors, il a eu cet impact-là aussi, Mike Bossy. Excellent analyste à TVA Sport. Oui. Alors, c'est avec beaucoup de chagrin là, qu'on apprend aujourd'hui qu'il doit combattre un cancer du poumon. Alors, moi, je suis vraiment touché d'apprendre ça et j'espère que Mike réussira à s'en tirer. C'est un gars qui a beaucoup de force, beaucoup de résilience. C'est un gars extraordinaire, Mike Bossy. Alors, bonne chance à lui.
Ah, tu as très bien dit ça, Philippe. Une de mes idoles de jeunesse, personnellement. Ouais. Numéro 22. OK, parfait.
Lui, il y mettait dedans.
C'était hey boy.
C'est incroyable. Hein? C'est l'image de Mike Bossy. Tu penses aux grands joueurs. Là. Tu penses à Maurice Richard. Même si on ne l'a pas vu jouer, c'est comme si on l'avait vu jouer tellement on a entendu parler de lui. T'sais. Tu le vois foncer vers le filet adverse. Guy Lafleur, tu vois le lancer frapper là, quand il reçoit la passe de Lemaire. Mais Mike Bossy, lui, tu vois le gars qui s'amène juste devant le filet. Il ne semble pas avoir d'ouverture. Puis bang! Il y a loge dans le haut, là, juste là. Top corner, comme on dit. Franchement, un talent absolument exceptionnel.
Ce que les Anglais appellent un sniper.
Ouais.
50 buts en 50 matchs, je pense. Ça faisait longtemps que l'exploit n'avait pas été accompli.
Ben, tout à fait, depuis le temps de Maurice. Ben oui. Depuis le temps de Maurice. Alors, ça aussi, c'est assez exceptionnel. 4 Coupes Stanley consécutives au début des années 80 avec les grosses équipes des Islanders. Ça, je te disais tantôt, c'est que, tu sais, ces gars-là, là, Mike Bossy, Marcel Dionne, Gilbert Perreault, ils n'ont pas joué avec le Canadien. N'ayant pas joué avec le Canadien, ils n'ont pas été, même si ce sont des Québécois, ils n'ont pas été sous les feux de la rampe au Québec autant que les francophones qui ont porté l'uniforme du Canadien. Mais ils ont eu des carrières absolument phénoménales. Puis des fois, moi, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu vite. On oublie un peu vite la carrière extraordinaire de Marcel Dionne. On oublie un peu vite la carrière extraordinaire de Mike Bossy, la carrière extraordinaire de Gilbert Perreault. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas eu sous les yeux quotidiennement. Mais ces gars-là ont marqué l'histoire du hockey au Québec, même s'ils n'ont pas porté l'uniforme du Canadien ou des Nordiques. Quand les Nordiques étaient là.
OK, match clé pour le Canadien ce soir.
C'est assez incroyable de dire ça hein, ce 19 octobre, alors qu'il y a seulement 3 rencontres de jouer, Patrick. Mais c'est un match clé pour le Canadien. Le Canadien peut difficilement là,
composer. Il ne peut pas perdre ce match-là. Là.
Ben, non, on ne peut pas perdre ce match-là parce que là, il se retrouvait avec une fiche de 0 victoire, 4 revers. Et tu sais, ça donnerait un choc au moral, je pense, de toute l'équipe, de toute l'organisation et de tous les fans. Et là, quand tu regardes le calendrier, c'est une séquence de 4 matchs à domicile pour le Canadien. Ils ont perdu le premier contre les Rangers de New York. Et là, c'est le match prenable. Ce soir, c'est prenable. Les Sharks de San Jose, c'est pas une mauvaise équipe de hockey. C'est un club qui est un peu en reconstruction. C'est pas une puissance de la Ligue nationale. Il y a personne qui pense que les Sharks vont gagner la Coupe Stanley cette saison. On est loin de là à San Jose. Alors, il y a une occasion là, pour le Canadien. Devant ses partisans, l'enthousiasme de la foule, il va falloir que l'équipe commence vraiment avec la pédale au plan. Moi, j'ai été assez déçu du rendement du Canadien dans le match contre les Rangers de New York après la présentation des joueurs. Puis bon, il y avait de l'effervescence dans l'amphithéâtre et tout. Je me serais attendu à ce que le Canadien commence ce match-là avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu sais, vraiment mettre énormément de pression sur le gardien adverse, essayer de provoquer des choses. Et on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça au point où tout à coup que la foule là, semblait devenir un peu amorphe là, après 10 minutes de jeu parce qu'il ne se passait pas grand-chose en attaque du côté du Canadien. Alors, quand tu joues à domicile, il faut que tu donnes le ton en partant. Et ce soir, le Canadien devra le faire parce que, Patrick, je peux te prédire une chose. C'est que si c'est 0-4 l'affiche du Canadien quand on se réveille demain matin, là, ça va se mettre à jaser beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez le Canadien. On le sait, les absents qui sont là. Mais au-delà de ça, c'est que il y a cet inconfort au niveau de la direction. Tu sais, Jeff Molson, qu'on n'entend plus vraiment, il s'est adressé au public avant le premier match dans la cérémonie officielle, mais tu sais, il n'a pas répondu aux questions des journalistes depuis très longtemps. Les gens diront, il ne fait pas de conférence de presse habituellement comme ça en début de saison. Non, mais il en fait une d'habitude au début du camp d'entraînement, lors du tournoi de golf du Canadien. Cette année, il n'y a pas eu de tournoi de golf pour des raisons de COVID, ou en tout cas, les joueurs n'étaient pas là, la direction n'était pas là. Donc, il n'a pas répondu aux questions. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense du dossier de Marc Bergevin. Et ça, c'est au cœur d'une problématique chez le Canadien. Et on l'avait dit depuis longtemps, à peu près tous les analystes s'entendent là-dessus. Si ce dossier-là n'était pas réglé assez rapidement au début de saison ou pendant le camp d'entraînement, ça risquait de devenir un irritant et une distraction chez le Canadien. Et c'est déjà en train de faire ça parce que le directeur général, je le répète, l'entraîneur, le directeur général, quand ils amorcent la dernière année de leur contrat, la coutume, c'est qu'on prolonge le contrat pour montrer qu'on est derrière eux, puis qu'on croit en eux, puis que ce sont nos gens pour l'avenir. Et là, t'as pas ça avec le Canadien à l'heure actuelle. C'est un élément de distraction et si les défaites s'empilent par-dessus ça, ça va devenir encore un plus gros élément de la distraction, parce que les victoires peuvent effacer des choses, mais pas les défaites.
En terminant, Philippe, parle-nous de cet entraîneur collégial américain qui a été congédié avec 4 de ses adjoints, ouais, un entraîneur de football, parce qu'il refusait le vaccin de la COVID.
Une histoire absolument avec du mordant. Alors, il s'appelle Nick Rolovich, il est l'entraîneur de l'équipe de Washington, de l'Université de Washington. Attention, pas la ville de Washington, mais l'État de Washington sur la côte ouest américaine. Et ça fait très longtemps qu'on lui dit qu'il doit être vacciné. Pourquoi? Parce que l'Université de Washington, c'est une université publique. Donc, il est officiellement un employé de l'État. Et les employés de l'État, par ordre du gouverneur de l'État, doivent recevoir un vaccin. Et la date limite, c'était hier. Il a demandé une exemption pour des motifs d'ordre religieux. Patrick, semble-t-il que cette exemption-là lui a été accordée. Mais c'est pas tout d'avoir l'exemption. Il faut ensuite, pour pouvoir continuer à exercer ton métier sans avoir le vaccin, si tu as une exemption, faut que tes patrons jugent que c'est praticable, que tu ne fais pas courir de risques pour la santé à tes collègues de travail. Alors lui, comme coach de football, bien sûr, il travaille constamment avec des gens, avec des joueurs, avec des entraîneurs adjoints. Il est en relation directe avec des dizaines de personnes à chaque jour. C'est très différent du cas de quelqu'un qui travaillerait tout seul dans son bureau, par exemple. Alors là, on a dit non, toi, on ne peut pas faire d'accommodement pour toi. Tu ne peux pas réussir à ne pas côtoyer des gens. Donc, il a été congédié. Il était l'employé le plus payé dans l'État de Washington. Le coach de football, 3 millions de dollars par saison.
L'employé du secteur public.
Exactement. Il reste encore trois ou quatre années à son contrat. Donc, il laisse énormément d'argent sur la table et il n'est pas le seul à partir. Comme tu le disais tantôt, 4 de ses adjoints aussi. L'équipe allait pourtant bien, mais le gouverneur de l'État de Washington, il a dit, écoute, moi, je mets mon point sur la table. On a mis un règlement. Le règlement doit être accepté. Tu ne veux pas avoir le vaccin. Merci, bonsoir.
Merci, Philippe. On se retrouve demain.
Salut.
OK, petite pause. Après ça, on va faire le point sur le procès de la belle-mère de la petite fille de Granby. On sait que le procès pour négligence là, se tient ces jours-ci à Trois-Rivières.